MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons parler de la famille et très spécifiquement de la famille recomposée. Si vous êtes une famille recomposée, vous allez peut-être dire « Enfin, ils en parlent !» parce que je vous ai vu dans les commentaires le demander. Et on en parle, mais on n'en parle pas avec n'importe qui. Nous avons une invitée qui est avec nous pour la première fois dans « Bonjour chez vous ». J'ai l'honneur d'accueillir Pasteur Modestine Castanou. Bonjour Pasteur Maud.
Bonjour Yveline. Bonjour Élie. Ça va très bien. Ouais.
Quel honneur de vous avoir enfin sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est vraiment.
Eh ben quelle joie d'être parmi vous. Alors, je suis toute contente là, excitée. Voilà, très bien. On se sent bien ici.
Bien. Bien, vous aimez la table? Ça va?
Oh oui, ça va très bien. Exactement.
On a un beau plateau, Aurélie, c'est bien.
Oui, effectivement.
On est bien.
Très très beau plateau.
Effectivement, Pasteur Modestine, les gens. Je pense vous connaissent quand même, mais au cas où, il y en aurait deux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes bien sûr l'épouse du pasteur Yvan Castanou et donc pasteur associé à l'église Impact Centre Chrétien, une église qui a beaucoup, beaucoup de filles, d'églises filles, un peu partout, dans énormément de pays à travers la francophonie. Et puis, c'est pour nous et pour moi particulièrement un plaisir de vous avoir parce que j'ai été moi-même une fille de ICC à Paris. Et toi aussi, Aurélie,
oui,
c'est vrai, c'est la team ICC autour de cette table aujourd'hui.
Exactement.
Oui. Et donc, c'est vraiment un double plaisir de vous accueillir dans Bonjour chez vous.
Merci beaucoup. Je suis vraiment remplie de joie ce matin également d'être parmi vous. Et on se sent à la maison, on est vraiment une famille. Hein,
exactement. Donc, voilà. Ça tombe bien puisque c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Ah, on sent la professionnelle. Hein. Est-ce que vous êtes animatrice d'émission aussi, quand même, il faut le dire, hein, sur MCI TV, si vous suivez, également sur la chaîne YouTube de ICC, ICC TV. Il y a l'émission Éclat de sagesse que vous animez merveilleusement bien, d'ailleurs. Donc, pour vous, c'est ça, c'est l'habitude, en fait.
C'est l'habitude, c'est vrai, mais en même temps, quand on arrive quelque part et on sent vraiment qu'on est... On est vraiment en phase avec les personnes qui nous reçoivent. On se sent vraiment rassurés. C'est très bien, on se sent en famille, là. Je me sens coucounée, là. Depuis que je suis arrivée, on prend soin de moi et tout. Donc voilà, tout va bien.
Ouais. On est content. Et Pasteur Maud, vous allez faire une rubrique famille tout à l'heure. Vous allez parler des familles recomposées, justement, des avantages et des défis. Alors moi, j'ai aimé, vous avez cité le mot avantage, parce que quand on pense famille recomposée, on pense particulièrement aux défis. Et donc, tout à l'heure, vous allez pouvoir nous en parler. Mais pour l'instant, on va commencer cette émission, on va parler de la famille, mais de la famille au sens large, parce que la famille, c'est beaucoup de choses, et c'est également la famille en Christ. Et donc, on en parle tout de suite dans la pensée du jour.
Et oui, on va parler de famille aujourd'hui et dans le cadre de cette pensée, on va s'intéresser spécifiquement à la famille spirituelle. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on voit tout au long de l'Ancien Testament comment Dieu a été présenté. Il a été présenté comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jiré, Jéhovah Sabaoth et plein d'autres noms encore. Mais Jésus est venu révolutionner la donne et nous a présenté Dieu comme le Père. Il nous a introduit dans une dimension où quiconque reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur devient fils de Dieu. Nous faisons donc entièrement partie de la famille de Dieu. Sur le plan naturel, lorsqu'on regarde une famille classique nucléaire, elle est composée du père, de la mère, des enfants. Et si on va plus loin dans la famille élargie, on peut retrouver les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Si vous êtes en Afrique, c'est encore plus long. Donc voilà. Mais sur le plan spirituel, la famille est constituée de qui ? Elle est constituée de Dieu le Père, et on a Jésus-Christ, et on a le Saint-Esprit, et c'est pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. On sait que dans la société, la famille joue un rôle primordial. La famille joue un rôle dans l'éducation des enfants notamment. Elle apporte la sécurité matérielle, affective, morale. Elle donne des repères essentiels. De la même manière, dans la famille spirituelle, en fait est primordiale pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, pour tous les enfants de Dieu. Et il y a une sécurité, une affection, une éducation, une croissance dont on se prive quand on ne fait pas partie d'une famille spirituelle, peut-être parce qu'on la banalise ou parce qu'on la rejette. Par contre, lorsqu'on choisit d'appartenir à la famille de Dieu, mais ça rapporte trop. on voit dans Matthieu 19 cette histoire avec Pierre et Jésus. Pierre, il demande à Jésus, on a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui va nous arriver? En fait, c'est aussi une façon de dire qu'on a quitté nos proches. Et là, Jésus lui répond au verset 29, « Et tous ceux qui ont quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. » Ça, c'est une garantie de toutes les personnes qui font partie de la famille de Dieu. C'est qu'ils ont un avantage, ils ont la vie avec Dieu. Ils reçoivent même 100 fois plus conformément à ce verset biblique et ce n'est pas rien. Il est dommage de voir aujourd'hui que plusieurs peuvent se priver de cette famille spirituelle parce qu'ils regardent aux hommes, on regarde dans l'imperfection des hommes et on décide que, OK, moi, je ne veux pas faire partie d'une famille spirituelle. Et pourtant, dans la famille spirituelle, Jésus est bel et bien au centre de la famille. Il est la tête, nous sommes le corps et plus on va regarder à lui, plus on sera heureux et épanoui dans cette famille spirituelle. Et pour conclure cette pensée, j'aimerais dire aux personnes peut-être qui, sur le plan naturel, n'ont pas connu une famille qui était peut-être épanouie. La Bible nous dit dans le psaume 68 que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Donc peut-être vous n'avez pas une famille naturelle très, très épanouie, mais Dieu vous donne une famille, c'est la famille spirituelle. Prenez la main que Dieu vous tend aujourd'hui et attachez-vous à votre famille spirituelle.
Amen. Merci Aurélie. C'est tellement vrai. J'aime ta conclusion parce que souvent, en fait, on peut discuter avec des personnes qui, bah oui, sont déçues peut-être de leur mère, de leur père, de leur frère, de leur sœur, parce qu'on vit toutes sortes de choses dans une famille. On ne choisit pas sa famille. On est dans une famille, puis on prend ce qu'on a. Et c'est tellement merveilleux de se dire qu'en Christ, on peut retrouver un père, une mère, je parle même vraiment physique, un frère, une sœur et une famille qui se reconstitue autour de nous et qui peuvent parfois occuper le rôle mieux que nos parents biologiques, nos frères et sœurs biologiques, parce que Dieu les a placés sur notre route. Et oui, on peut retrouver une famille réellement et je trouve que c'est extrêmement encourageant de se dire qu'on n'est pas coincé à devoir souffrir finalement de l'absence de bons parents, de bons frères et sœurs, mais Dieu a quelque chose pour nous de merveilleux.
Exactement, c'est vrai que ce que Dieu nous réserve, c'est toujours quand même des meilleures choses. C'est un bon père, c'est le père par excellence, comme on aime le dire, et que ce qu'il réserve pour nous, c'est toujours le meilleur. Alors, on n'a souvent pas l'impression de le sentir, notamment lorsqu'on a été dans une famille, entre guillemets, biologique, où les choses ne se sont pas passées de la meilleure manière possible. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, l'absence du père ou de la mère ou simplement un enfant qui a été recueilli, adopté, voilà, qui a eu une seconde famille parce que la première n'a pas été présente, qui a eu une seconde famille qui est vraiment, pas forcément une famille biologique, mais qui est une famille, entre guillemets, d'amour. Parce que lorsqu'une mère adopte un enfant, cette mère veut donner le meilleur. Parce qu'aller chercher un enfant, c'est qu'on veut vraiment donner l'amour à cet enfant. Même dans un cas ou dans l'autre, quelle que soit notre origine, mais le Seigneur a quand même une famille pour nous, la famille spirituelle. Moi, je trouve que c'est une famille fabuleuse, en fait. Moi, le jour où j'ai accepté le Seigneur, j'ai atterri dans une famille spirituelle. J'ai trouvé tout le monde gentil, au départ.
Bon, après, on a vu que tout le monde n'est pas
voilà,
tout le monde
c'est
gentil.
Ça. Voilà, en fait, si gentil, mais parce que chacun venait de quelque part.
Mais oui.
Chacun vient tel qu'il est. Le Seigneur, notre Dieu, nous accepte. C'est notre famille par adoption.
Oui.
On devient enfant de Dieu. On arrive dans cette famille où chacun a eu son background. Et le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et vous savez qu'au départ, c'est un peu difficile. Et c'est pour ça que souvent, dans la famille spirituelle, notamment dans l'Église, on peut entendre les frères et sœurs dire, oui, il n'y a pas d'amour dans cette Église. Mais justement, il n'y a pas d'amour parce que toi, tu constates qu'il n'y a pas d'amour. Mais Dieu dit, aimez-vous. Ça veut dire que toi, tu es capable de donner l'amour.
C'est ça, c'est qu'on est tous participants dans cette famille, en
tout
fait.
À fait.
On
tout
a tous un rôle à jouer, comme dans la famille nucléaire que tu citais au début. On a tous un rôle à jouer, dans cette famille spirituelle aussi. Et j'aimerais qu'on regarde rapidement notre verset du jour. Vous allez voir que Jésus avait une vision très claire par rapport à ça. Matthieu 12, au verset 50, on lui annonce hein, que sa famille biologique, entre guillemets, parce qu'il n'y a même pas vraiment de biologique, mais en tout cas, ses vrais parents terrestres le cherchent. Et il va répondre, « En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ce qu'il voulait expliquer par là, c'est qu'en fait, pour lui, il était sorti du cadre traditionnel de la famille et en fait, il est venu instaurer quelque chose de nouveau quand il a expliqué ça. Il a expliqué que désormais, la famille, comme on la connaissait, on devait la voir différemment et que désormais, ceux qui devenaient des enfants de Dieu devenaient des frères et sœurs, des mères, des pères les uns pour les autres. C'était complètement nouveau au moment où Jésus a parlé de ça.
Effectivement, Evelyne, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans une famille, quand on parle de famille? On retrouve un soutien émotionnel, un sentiment d'appartenance, de développement personnel, un soutien financier, des soins et de l'affection. Et ça, c'est ce qu'on doit retrouver normalement dans une famille. Ouais. Maintenant, il y a des personnes qui ne vont pas forcément le retrouver dans leur famille biologique, mais ce n'est pas pour autant que c'est fini. Il y a des familles que Dieu a mis à disposition qui sont disponibles. Et la famille spirituelle en est une. Dans une famille spirituelle, on doit pouvoir retrouver ces choses-là qui font partie intégrante de la famille. Et on doit pouvoir le vivre, on doit pouvoir l'expérimenter, on doit pouvoir en être les bénéficiaires. Et j'aimerais faire juste une parenthèse pour parler peut-être aux personnes qui justement quittent leur famille spirituelle parce qu'elles sont déçues. Mm-hmm. Mais on ne quitte pas son père et sa mère parce qu'on est déçus. Quand Dieu demande de quitter son père et sa mère, c'était pour se marier dans de façon naturelle. C'est pas parce que tu es déçu que tu quittes ton père et ta mère. Donc, c'est important de savoir que oui, il y aura peut-être des défis au quotidien, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'exclure de la famille de Dieu. Au contraire, une partie prenante, une partie qui est active pour la résolution des défis. Mm-hmm. Et nous, on doit se positionner ainsi.
Tout à fait. Alors, Jésus le dit bien. Vous voyez comment Jésus définit la famille spirituelle. Hein? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Mm-hmm. C'est-à-dire que si chacun de nous faisait la volonté de Dieu, on serait une famille formidable.
Vraiment. Ouais.
Réellement, on trouverait dedans l'amour, le réconfort. Alors, on le trouve déjà à petite échelle, mais parce que chacun de nous est en construction. Il y en a qui font vraiment la volonté. Il y en a qui essaient de faire la volonté. Il y en a qui sont loin de faire la volonté de Dieu. Mm-hmm. Et en fait, au final, si on regarde... Franchement, si on pouvait examiner les écrits du Christ, hein, boire la parole de Dieu, essayer de se battre pour mettre en pratique, pas se battre, mais vraiment s'efforcer à mettre en pratique, honnêtement, le nom famille dans l'Église serait une réalité.
Sens, quoi,
voilà. Ouais. Et on verrait vraiment les gens s'aimer, s'entraider. On le fait déjà hein, quand un frère est malade, on prie. Parce qu'on est préoccupé, on se dit c'est mon frère. Hein. On s'appelle frère et sœur, d'ailleurs.
Hein. Et je pense que des fois, on l'utilise de manière tellement machinale, ce mon frère, ma sœur, où il y a une sœur, il y a un frère, qu'on ne réfléchit plus quand même au sens derrière ce mot. Et c'est vrai que c'est important, vous dites, c'est vrai, on s'appelle frère et sœur, mais c'est important de réaliser ce que ça signifie, c'est qu'il y a un lien. Mm-hmm. Il y a un vrai lien et on ne traite pas son frère n'importe comment, on ne traite pas sa sœur n'importe comment. Et on peut dire, aujourd'hui c'est un sujet assez léger que vous partagez, mais Jésus en a beaucoup parlé de ce sujet-là, du fait de s'aimer les uns des autres, que c'était à l'amour qu'on aurait les uns pour les autres, qu'on nous reconnaîtrait, du fait de ne pas avoir de haine pour notre frère. Les disciples en ont beaucoup parlé dans les épîtres aussi. C'est des sujets qui sont revenus régulièrement parce qu'en fait c'est... le cœur de cette famille en Christ, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'il y ait ces éléments-là pour qu'on puisse aller de l'avant, en fait.
Tout à fait, et pour qu'on puisse vraiment avoir un impact, en fait. Hein. La Bible dit que la révélation tout entière, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Mm-hmm. Les gens attendent, le monde attend, sauf que nous, on aime bien dire « ouais, mais Jésus sauve et tout », mais en tant que famille, les gens ont du mal à voir. Mm-hmm. Voilà, cette empreinte-là même de Dieu, ce que Dieu a dit concernant sa famille à lui, en fait, hein, pour donner envie à d'autres de venir dans cette famille, parce que cette famille doit continuer à grandir. Hein. Mm-hmm. Et donc, c'est nous qui sommes un peu garants, nous sommes des ambassadeurs de cette famille, disant que « écoutez, venez voir, ma famille est formidable, vraiment, elle est formidable ».
C'est comme ça. Une continuité d'une tradition en fait, que Jésus a mis en place, une tradition familiale, et on doit effectivement être garant pour que l'amour règne toujours dans cette famille. Effectivement, et j'espère que ça vous challenge un petit peu, parce que c'est le but. Moi-même, ça me challenge, c'est pas vous, mesdames, mais je me dis, on peut toujours progresser. J'espère être une bonne sœur pour ceux qui m'entourent et mériter ce titre, parce que c'est important. Et le thème de cette émission, on parlait des familles recomposées, et ne vous en faites pas, on ne vous a pas oublié. Avec vous, Pasteur Maude, on va maintenant enchaîner sur notre rubrique « Famille ».
Et oui, donc ensemble, nous allons voir la famille recomposée. Alors, pour voir d'abord, si on veut donner une définition à la famille, il faut savoir que la famille est vraiment le socle, le berceau de la socialisation d'un enfant, d'une personne qui vient de naître, qui est appelée à devenir un adulte qui plus tard bénira sa communauté, bénira son pays, sera utile à la nation. Mais au départ, cet enfant, lorsqu'il naît, il va grandir au sein d'une famille. C'est là qu'il va se faire ses muscles physiques, ses muscles également mentaux, entre guillemets, ses muscles spirituels. C'est là qu'il va vraiment développer son petit caractère et qui va devenir plus tard un grand caractère, n'est-ce pas? Voilà, c'est dans cette famille-là. Et selon qu'on ait reçu ou pas un bagage émotionnel ou physique, il pourrait, cet individu né dans une famille, devenir un homme ou une femme fort, influent, une vraie bénédiction pour son entourage. Vous voyez, donc la famille n'est pas à négliger. Yveline, tu serais d'accord avec moi. La famille est vraiment, vraiment un aspect très important. Si Dieu nous l'a montré que lui, il a une famille, nous faisons partie de sa famille, mais nous aussi, nous pouvons fonder une famille à notre niveau et nous sommes nés dans une famille et on doit regarder cette famille-là. Alors, au 21e siècle, la famille au 21e siècle a un autre visage, on a constaté, oui, les choses ont changé. Un autre visage, la famille du 21e siècle n'est pas forcément la famille qu'on avait l'habitude de voir. C'est une famille qui sort carrément des sentiers battus.
Complètement.
C'est une nouvelle forme de famille, mais ça reste une famille, s'il vous plaît. C'est quand même une famille et cette famille peut surgir suite à des accidents de la vie. Voilà, un divorce, un décès ou simplement un mauvais choix au départ, hein, quelqu'un qui s'est trompé, ça peut arriver de se tromper, et donc qui va être emmené à refaire une autre famille, c'est-à-dire s'engager dans le chemin de continuer ou sinon de recommencer une nouvelle famille. Et c'est là, en venant dans cette nouvelle famille avec ce qu'elle avait déjà comme... héritier, entre guillemets, comme bagage, hein, comme enfant, voilà. Et cette personne entre dans la relation et c'est ce qu'on appelle, nous, maintenant, la famille recomposée. Ce n'est pas juste une famille ordinaire, mais c'est une famille qui se recompose. Hein. L'un et l'autre vient dans la relation avec ses enfants, avec sa petite famille qu'elle avait commencé ou qu'il avait commencé à former auparavant. Donc, ils viennent ensemble et ils vont former une famille. Alors, moi, la question que je me posais, comment commencer une famille? Alors, j'essaie déjà à deux. Parce que pour qu'il y ait une famille, il faut au départ qu'il y ait deux personnes.
Effectivement.
Hein, le papa et la maman, on est deux au départ. Hein, et c'est tellement facile d'être à deux, de pouvoir construire une famille. Parce qu'on parle, on s'entend, voilà. On a le temps de communiquer, de faire connaissance. À deux, c'est mieux.
Oui.
Mais lorsqu'on veut justement constituer cette famille, il y a déjà 4-5 personnes autour de vous. C'est un peu plus compliqué.
Ouais,
là.
C'est
ça, c'est tout un challenge. Donc, du coup, la famille recomposée a également ses défis, ses avantages. Moi, je vais commencer par les avantages. Hein. Simplement, une famille recomposée, quelle joie d'être dans une maison tout de suite avec des enfants. Plein d'enfants là, qui courent partout, qui jouent, qui apportent la joie de vivre. On est heureux. On dit, je suis maman de 3 enfants, de 4 enfants. On va inclure les enfants de son partenaire, de son conjoint. Peut-être qu'on en avait un, l'autre est venu avec 3. Je suis maman de 4 enfants. Donc, c'est une fierté, c'est une joie. Lorsqu'on va en vacances, on est comme ça, nombreux, autour de la table, la famille idéale, voilà. Et voilà les avantages, parce que les enfants sont déjà là. Ils sont venus comme ça, là. Voilà. Ils sont là, en tout cas. Et cette famille qui a l'air aussi grande, idéale, peut avoir des challenges. Voilà.
Oui.
Voilà. C'est vraiment avoir des challenges. Alors, nous allons aborder donc 3 points. Famille recomposée, comment avoir un couple épanoui et soudé lorsque chacun vient avec ses enfants issus d'une précédente relation. Comment, alors, ce couple-là, comment il va continuer à exister? Est-ce qu'il va continuer vraiment à exister?
That's the question.
Lorsque les bouts de chou entrent dans cette relation, c'est la première question, c'est ce que nous allons voir ensemble. Ensuite, on verra l'autorité parentale et après, on finira par la place des enfants. Alors, comment exister en tant que couple lorsque les enfants sont là? Vous entrez dans la relation, chacun vit avec ses enfants qui étaient habitués avec lui. Hein. Maman de 2 enfants, moi j'aime mes enfants. Et le papa, il vient avec 3 enfants, il aime ses enfants. Et on se met ensemble et les enfants ne s'entendent pas entre eux. Alors, comment faire? Premièrement, chers parents, peut-être que vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire. Le couple, pour exister, doit absolument trouver un moyen de s'épanouir. En fait, avant les enfants, le couple existe.
C'est vrai. Mm-hmm.
Voilà. Parce que si le couple ne tient pas, si le couple n'est pas présent, tout ce beau monde autour ne pourra pas tenir.
Tout à fait. Mm-hmm.
Voilà, c'est vous, en fait, les parents, qui créez le lien. C'est votre vie, votre existence qui fait en sorte que ben, les enfants, eux aussi, peuvent vivre autour, mm-hmm. peuvent graviter autour, en fait. Donc, le couple doit être soudé, uni. Il doit savoir que nous devons exister en tant que couple. Mm-hmm. Non pas nous devons nous laisser envahir par les enfants, mais on doit chercher notre cohésion, notre entente, notre solidité. On doit être fort ensemble, d'abord. Lorsque nous serons forts, alors les enfants pourront être forts après. Mmh. Alors chacun va voir quel bout il va prendre, c'est chaque enfant. En tout cas, c'est à voir. Ça, c'est important. Le couple doit être uni, fort. Et sinon, il va disparaître. Voilà. Il va disparaître. Ça, c'est la première chose à considérer. Et ce n'est pas aux enfants de diriger les choses. Mmh. Voilà. Le rythme, le tempo doit être donné par les parents, s'il vous plaît. Voilà. Mmh. Ils ont beau être gentils, joviales, mignons, avec les visages d'anges. Ils restent des enfants, ils doivent rester à leur place. C'est nous qui dirigeons la maison. Et même le droit de la famille le dit, hein, l'autorité parentale revient aux parents. C'est pour ça qu'on appelle parental. Donc, nous devons donner la vie à ce couple, à ce beau monde-là. Et donc, je vais enchaîner avec la deuxième partie, l'autorité parentale, mode d'emploi. C'est quoi l'autorité parentale? C'est lorsque le parent joue son rôle. Mm-hmm. Il n'est pas remplacé par l'enfant. Il n'est pas remplacé par... les deux parents jouent leur rôle réciproquement. L'enfant n'a jamais autorité sur les parents dans un couple, dans un foyer. Mmh. Malgré l'amour qu'on donne à nos enfants, il faut jamais, ils ne peuvent pas remplacer un parent. Ça, c'est important. Si nous voulons avoir l'harmonie, la cohésion, il faut donner aux enfants leur place. Et ce couple-là qui se forme nouvellement, parce que c'est un nouveau couple, hein, avec les enfants qui sont là, qui courent, qui font du bruit dans la maison, souvent, ben, il arrive que ce couple n'a pas trop de temps pour lui. Mmh. Alors, lorsqu'ils arrivent, ils sont arrivés vite, ces enfants. Ils sont là, ils sont présents, il faut les gérer. La première chose à faire lorsque vous vous retrouvez dans une famille recomposée, Amos 3, 3 dit, deux personnes peuvent-elles se marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Mmh. Vous devez vous isoler un petit temps pour vous mettre d'accord. Comment nous allons gérer cette famille un peu du 21e siècle, on va dire. Cette famille qui sort un peu de l'ordinaire. Comment allons-nous gérer? Quelle éducation allons-nous donner aux enfants? Nous allons exercer l'autorité parentale. Est-ce que, en fait, moi, ce que je dirais tantôt, que je peux conseiller aux parents qui se retrouvent dans cette situation, il faut absolument que les décisions, la ligne de conduite, les règles dans la maison, vous devez vous mettre d'accord. Qu'est-ce qui prime pour nous? L'éducation, ce n'est pas que chacun donne l'éducation à ses enfants. Nous devons donner la même éducation à tous nos enfants, ça dit, oui. Ils sont nos enfants là. Mm-hmm. Voilà. Même si chacun est venu avec sa partie, ils sont nos enfants. Donc nous devons donner la même éducation. Mm-hmm. Si on ne se met pas d'accord, mais chacun viendra avec sa manière. Ah, mais ma fille, c'est toujours comme ça que je lui parle. Ma fille, elle a le droit de sortir et rentrer à minuit. Alors que pour le papa, par exemple, c'est inconcevable. Un enfant qui est sous le toit de ses parents doit rentrer à une certaine heure. Donc fixez ensemble l'heure là. C'est à quelle heure que les enfants doivent rentrer. Ensemble. Et dès lors qu'on s'est... On a fixé les règles, on s'est mis d'accord. Alors, nous allons donc mettre cela en pratique. Et devant les enfants, lorsqu'un parent fait une erreur, parce qu'on a dit, OK, l'enfant doit rentrer au plus tard à 20h, 21h. Mm-hmm. Lorsque l'autre parent fait une erreur en disant, ah oui, mais l'enfant rentre à 23h, 24h, à minuit, pardon, et le parent fait une remarque, hein, il ne faut pas que l'autre parent puisse désavouer l'autre devant les enfants.
Exactement. Mm-hmm.
Parce que les enfants sont très intelligents. Ce sont des fins psychologues, ils savent jouer, ils nous observent et généralement dans les foyers, les enfants observent qui est le maillon faible.
Qui va craquer.
Vers qui allons-nous demander des choses un peu plus compliquées? Voilà. Il faut que lorsqu'ils arrivent chez l'un comme chez l'autre, ils se rendent compte qu'ils ont la même parole, la même bouche, ça veut dire qu'il n'y a même pas moyen de se faufiler entre les deux. Et ça, c'est génial parce que c'est comme ça qu'on tiendra la famille. On pourra aller jusqu'au bout, emmener cette famille à destination. Je ne sais pas si vous me suivez, chers téléspectateurs. Voilà, ce sont les recommandations qu'on peut vous dire. Ne laissez jamais reprendre son conjoint devant les enfants. Si vous avez une remarque, vous restez calme. Si vous sentez qu'il a dit une bêtise, ce n'est pas grave. Dans le lieu secret, lorsqu'on va se retrouver, on règle nos comptes, n'est-ce pas? On se dit, mais là, quand même, tu as dit ça, ce n'est pas comme ça. Et on règle les comptes, et comme ça, l'autre a le temps de rectifier le tir. Il peut revenir après voir les enfants, leur dire, écoutez, je vous ai dit ça, mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Voilà ce que je voulais dire. Mm-hmm. C'est mieux que l'autre prenne ses responsabilités pour que l'autorité parentale demeure. Alors, on va arriver sur le troisième point. Quelle est la place des enfants dans le foyer, dans ce nouveau foyer qui s'est formé? Eh bien, écoutez, le foyer, c'est papa et maman, tout simplement. La famille, c'est papa et maman et les enfants. Donc, vous, votre foyer, c'est vous deux. La place, c'est à l'extérieur.
C'est vrai.
Il ne rentre pas au milieu. Non, non, non. L'enfant qui vient dormir dans le lit des parents, non, non, non. Il a beau faire les cauchemars la nuit, non. Il dort dans son lit. Parce que mon couple doit exister.
Oui.
J'ai besoin de connaître cet homme que j'ai, avec qui je commence à former une vie. En fait, on a besoin d'être ensemble. Parce que ces bouts de choux là, ils sont mignons, mais demain, ils vont vous abandonner. Ils partiront. Lorsque l'un rencontrera l'âme sœur, il va vous dire, papa et maman, ciao, ciao, bye bye, je vous aime bien, mais il faut que j'aille voir. Dieu a dit, l'homme quittera, donc je vous quitte. Mm-hmm. Donc le couple doit exister, doit être solide. Pour exister, il faut vraiment que dans le cercle, la couple, qu'il soit que deux.
Tout à fait.
Pas trois, pas quatre, pas cinq. Mm-hmm. On n'embarque pas les enfants dans le couple. Mm-hmm. Les enfants font partie de la famille. Mm-hmm. Voilà. Et il faut savoir que dans l'inconscient des enfants, les enfants sont toujours intrigués. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là. Ces deux-là, lorsqu'ils entrent, qui ferment la porte, qu'est-ce qui se passe derrière? Mm-hmm. Ils veulent connaître, ils veulent vous connaître, ils veulent entrer dans votre couple. Ils veulent vous voir ce que vous pensez l'un et l'autre. Voilà. Donc, les enfants, ils sont gentils, mais il faut leur mettre à leur place. Mm-hmm. Et donc, quand on a entendu cela, on va dire, ouh là là, les enfants, est-ce que ça vaut la peine d'avoir les enfants? Et nous allons donc prendre notre... passage clé, le passage du psaume 127, verset 3. La Bible nous dit, « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mm-hmm. » En fait, les enfants sont vraiment une bénédiction.
Amen.
Voilà, ils sont une bénédiction. Ils apportent la joie, la gaieté, la bonne humeur dans une famille. Et nous devons les aimer, les aider à prendre leur envol comme des aigles et surtout à les propulser comme des flèches qui vont vers leur destinée.
Yes, amen.
Amen.
Merci, pasteur Maud. Belle rubrique, vraiment. Et ce que j'ai aimé dans tout ce que vous avez partagé, c'est que finalement, on réalise que, oui, une famille recomposée, c'est une famille avant tout, c'est le titre, mais en fait, on fonctionne de la même façon que dans une famille traditionnelle. Simplement, oui, la logistique est différente, bien sûr, le contexte est différent, mais cette importance d'avoir un couple qui est solide au milieu, qui va donner une dynamique finalement à toute cette nouvelle famille, est hyper importante. Et c'est vrai que dans une famille recomposée, on peut avoir l'impression que justement, on doit délaisser un peu le couple parce qu'il faut absolument s'occuper des enfants, il faut prendre soin des enfants. Il faut le faire, bien entendu, hein, mais pas au détriment du couple. Et j'aime beaucoup que vous ayez abordé ce point-là parce que je crois que c'est une erreur qui arrive parfois. C'est on se concentre tellement sur les enfants qu'on oublie de se concentrer sur le couple. Et finalement, vous l'avez très bien dit, ce couple, c'est ce noyau, c'est ce lien dans cette famille recomposée. Si le couple ne va pas bien, finalement, les enfants risquent de ne pas bien aller et toute la dynamique familiale risque d'être affectée. Donc, c'était d'excellents conseils que vous pouvez mettre en pratique si vous êtes une famille recomposée, finalement, ou non. Parce que dans une famille traditionnelle aussi, le couple a toute son importance.
Ouais.
Merci beaucoup pour cette belle rubrique. J'espère que vous avez été bénis par ce thème. Et surtout que vous avez pu avoir des réponses à toutes vos questions concernant ce sujet qui est un sujet délicat et peu abordé. Eh bien, demain, on va se retrouver. Vous serez encore avec nous, pasteur Maud. On vous garde, hein, on ne vous laisse plus repartir. Attention, hein. Te connais-tu réellement? C'est le thème qu'on va aborder demain. Et pasteur Modestine fera une rubrique couple et relations, être soi-même une bonne personne pour rencontrer la bonne personne. Donc, on va parler finalement rencontre, fréquentation, mariage. Les gens aiment bien ce genre de thème. Hein. Je sais que vous aimez bien. Je sais, je sais. Eh bien, demain, on va en parler. Ne manquez pas cette émission. C'est important de pouvoir bien se connaître soi-même et on va vous donner des clés demain. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci, pasteur Maud. Merci, Aurélie. Et à demain. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.